les jardinières.
On débute le week-end en parlant jardinage, histoire de faire le plein d'idées avant d'aller dans son potager. Bonjour Noélie.
Bonjour Mylène, bonjour tout le monde.
Pour nous accompagner ce matin et répondre à nos questions, nous sommes en compagnie de Cathiou Racine. Bonjour Cathiou.
Bonjour.
Cathiou Racine, vous êtes guide de randonnée nature à Mervely. On peut suivre vos activités sur les réseaux sociaux sous le nom de Rendez-vous avec soi-même. Merci d'être avec nous ce matin.
On connaît tous le parfum enivrant, hein, des roses, des lilas ou des pivoines, mais certaines fleurs ont choisi une autre stratégie, sentir franchement mauvais. Et c'est justement de ces stars du mauvais goût floral dont on va parler ce matin.
7h, 8h, les jardinières.
Mais avant de titiller nos narines, on va parler du programme du week-end au jardin. Cathiou, après une semaine bien humide, le soleil devrait faire son retour, ce qui va donner envie aux amatrices et amateurs de jardin de gratter la terre. Du coup, on fait quoi au potager ?
Alors, on peut faire vraiment plein plein de choses maintenant. Il y a déjà des récoltes qui sont terminées ou qui sont en cours sur certains légumes. Donc, on peut de nouveau remettre d'autres plantons en place. On peut désherber parce que j'imagine qu'avec la chaleur qu'on a eue par les semaines passées, puis là, quelques jours de pluie intense, ben, ça a dû pousser les mauvaises herbes comme je ne sais pas quoi. Donc là, il faut tirer les mauvaises herbes. On peut un petit peu effectivement gratter le jardin pour redonner un peu d'air dans la terre. Enfin voilà, puis il y a des récoltes qui sont en cours. Donc on peut déjà récolter, puis peut-être déjà faire quelques conserves si vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui.
Merci Cathiou, vous êtes notre invitée jusqu'à 8h et vous allez prendre le temps de répondre aux questions de nos auditeurs. On les attend par téléphone au 0901 70 20 20 et vous serez en direct avec nous. Vous pouvez aussi remplir le formulaire sur notre site et joindre une photo à votre question ou alors nous écrire un SMS. Il faut taper le mot jardin, laisser un espace suivi de votre question et de votre nom que vous nous envoyez au 939.
7h, 8h. Les jardinières.
On associe souvent les fleurs à de doux parfums, pourtant certaines plantes ont une stratégie bien différente. Sentir la charogne, le bouc ou la matière en décomposition. Cathiou Racine, avec vous, on va tenter de mieux comprendre ces plantes. Alors déjà, pourquoi certaines plantes produisent-elles des odeurs que nous trouvons désagréables ?
Désagréables, c'est un mot bien léger, je trouve. En fait, elles produisent ces odeurs. En fait, c'est simplement une stratégie de survie et de reproduction qui est drôlement astucieuse, parce que toutes les fleurs qu'on peut voir quand on est un petit peu observateur, on remarquera que c'est les abeilles qui les pollinisent en général, ou les papillons. Et puis, ils sont bien occupés, tout ce petit monde. Alors, ces fleurs-là, elles ont développé un stratagème qui est plutôt spécialisé dans l'attraction d'insectes nécrophages. Nécrophages, c'est-à-dire qui se nourrit de tissus morts, donc de cadavres ou de petits insectes morts. Et puis en fait, ils reproduisent ça et du coup, ils attirent les mouches, les coléoptères qui viendront les fertiliser, les polliniser pour se reproduire. Donc c'est juste une stratégie de survie finalement.
Et bien justement, nous allons découvrir quelques-unes de ces plantes qui ne sentent de loin pas la rose. Et la star mondiale, c'est l'Amorphophallus titanum, alors surnommée la fleur cadavre. Pourquoi ce nom ?
Alors, Amorphophallus, elle s'appelle aussi arôme titan ou bien on peut aussi l'appeler phallus de titan. Donc le mot phallus, tout le monde sait à quoi ça ressemble.
Puis non.
Effectivement, je vous ferai un petit briefing après hors antenne, Mylène. cette fleur, vous pourrez aller voir sur internet, c'est une très très grande fleur qui peut mesurer jusqu'à plus de 2 mètres de diamètre et peser 45 kilos pour vous dire pour une fleur. Et à son centre, elle a vraiment un spat, on appelle ça, qui a justement une forme de phallus. D'où son nom, donc. Et puis, c'est une plante qui est très, très, très rare et c'est aussi très rare de la voir fleurir. On a la chance en Suisse d'avoir quelques spécimens au Jardin botanique de Bâle. À Zurich, il y en avait un, je ne sais pas s'il y a encore. Et puis, au Papillorama, à Chiètre. Alors, si toutefois, allez un petit peu regarder quand elles fleurissent. Je crois qu'à Chiètre, la dernière fois, c'était en 2020. Donc, ça devrait arriver ces temps parce qu'elle ne fleurit que les 6 ou 7 ans. Tous les 6 ou 7 ans. Et puis, ces plantes, elles se réchauffent, en fait. Elles produisent un processus biochimique qui s'appelle thermogénèse. Donc, c'est une production de chaleur et puis qui attire les insectes. Donc, voilà, c'est vraiment une plante assez particulière. Je pense que ça vaut la peine, une fois, de s'y intéresser et puis d'aller voir la floraison.
Merci Katiou. Au rayon des plantes qui ne sentent pas bon, on trouve aussi le Dracunculus vulgaris qui dégage lui aussi une odeur de charogne. Et lui, Katiou, eh bien, vous l'avez dans votre jardin. Alors, comment il va?
Ben là, il a fini. Hein. La reproduction, et c'est bon, c'est parti là. Alors, en fait, c'est le même processus que le phallus de Titan, mais c'est une plus petite plante. Et puis là, bah, c'est en fait un tubercule que j'ai trouvé dans une foire aux bulbes il y a quelques années maintenant. Donc celui-là, on l'appelle arôme puant ou bien serpentaire. Et puis c'est une plante vivace. Donc en fait, cette plante, elle est dans mon jardin. Je ne m'en occupe absolument pas. Donc elle se gère absolument toute seule. Et puis je trouve ça juste incroyable. Et puis elle est originaire à la base du centre et de l'est du bassin méditerranéen. Donc elle poussera plutôt chez nous si on trouve un bulbe et puis qu'on le met dans notre jardin. Il faut plutôt privilégier un endroit qui est assez ensoleillé, et assez sec. Et puis, ça se passe comme ça. Au printemps, il y a une espèce de grande tige verte, mais très robuste aussi, avec une forme comme ça, très, très phallique, qui se hisse depuis le tubercule. Et puis, sur cette tige, on voit qu'il y a plein de dessins striés et bruns qui rappellent justement la peau d'un serpent. C'est pour ça qu'elle s'appelle aussi serpentaire. Hein. Et puis, ces feuilles peuvent mesurer entre 10 et 35 cm de long et puis jusqu'à 45 cm de large. Donc, vous imaginez déjà que c'est vraiment des grandes feuilles. Et puis, après, une fois que ces feuilles sont sorties, on voit qu'il y a une fleur qui arrive. Et puis, cette fleur, c'est difficile de la décrire, mais je crois que vous avez mis la photo sur le site de RFJ, donc on pourra voir la photo. C'est une fleur qui est de couleur rouge foncé, bordeaux, donc elle a l'aspect de la viande qui est rassie, qui est ouais, en fin de vie aussi. C'est une très grande fleur qui peut faire jusqu'à 80 cm de long avec justement ce spathe au milieu en forme phallique. Et puis, au fond de ce spathe, eh ben, il y a des petites fleurs femelles qui dégagent de la chaleur et l'odeur de la viande pourrie. Donc cette fleur, elle est incroyable. Elle a la couleur, elle a l'odeur. Et puis, elle a la chaleur de la viande pourrie, ce qui attire des mouches. Et puis, ces mouches, elles vont dans cette espèce de gobelet. Et il y a elles passent des poils qui les retiennent, en fait. Et elles vont être retenues dans cette fleur pendant 6 heures. Et elles vont fertiliser et féconder les fleurs mâles qui sont juste en dessous des femelles. Et puis, au bout d'une journée, ces petits poils qui les retiennent se flétrissent parce que la fleur arrive à maturité. Et les mouches peuvent ressortir. Et puis, en fait, ben, la fécondation est faite. Donc, c'est juste incroyable. Mais je vous assure que pendant un jour et demi autour de ma maison, eh ben, ça pue. Vraiment.
7h, 8h, les jardinières.
Il y a quelques minutes, Katiou, vous nous avez parlé de plantes exotiques à l'odeur particulière. Et maintenant, place à deux plantes de nos forêts plus discrètes, mais tout aussi étonnantes. La première porte le joli nom d'arum tacheté.
Alors Katiou, comment est-ce qu'on peut le ou la reconnaître? J'ai pas fait les recherches pour savoir si c'était masculin ou féminin, j'avoue.
Ah, on va dire la reconnaître pour la fleur.
Voilà.
Hein, comme ça, voilà. Alors, en Suisse, on va déjà peut-être dire où est-ce qu'on la trouve. Donc, c'est une plante qu'on trouve plutôt au nord des Alpes. Hein. Disons, côté Tessin et tout ça, on ne trouve pas trop, parce qu'elle a quand même besoin d'avoir un environnement qui est ombragé ou semi-ombragé. Donc, voilà, celle-là, plutôt au nord des Alpes. Et puis, on va la reconnaître assez facilement parce qu'elle ressemblera à une petite fleur un petit peu exotique, comme ça. Elle a une feuille qui est enroulée autour de la fleur, de nouveau toujours avec ce spadis, donc cette espèce de trompe, cette forme phallique qui sort. Il y a toujours, c'est vraiment très représentatif de cette fleur d'avoir cette inflorescence comme ça, très droite. Et puis, c'est vrai, on dirait une petite fleur tropicale. Et puis, vous l'avez déjà tous vu, j'en suis convaincue, parce qu'en automne, elle fait comme une petite grappe de raisin, mais à l'envers, et puis orange. Donc, c'est toutes des petites boules oranges qui feront comme ça une petite grappe de raisin à l'envers. Donc, si une fois vous vous promenez puis que vous voyez cet automne ces petites grappes de raisin, ben, repromenez-vous au printemps et en été, puis vous verrez la fleur.
L'arum tacheté, elle piège temporairement certains insectes dans sa fleur. Mais comment fonctionne ce mécanisme?
Alors celle-là, elle a le même mécanisme que ce qu'on a expliqué précédemment, sauf que la différence qu'elle a, c'est qu'elle ne sent pas la charogne, elle va plutôt sentir les excréments Moi, c'est romantique ce matin, hein, c'est glamour. C'est les excréments des animaux de la forêt, bah, parce qu'elle s'est adaptée aussi à son milieu. Donc, en fait, elle va dégager cette odeur-là, et puis ça va attirer forcément les insectes de la forêt qui, normalement, vont sur les excréments. Et du coup, bah, elle aura à peu près le même procédé que celle que j'ai expliquée avant, c'est-à-dire que ces petits... Les insectes, ils vont être attirés par la fleur, et puis la chaleur aussi, parce qu'elle produit aussi de la chaleur, et puis ils vont atterrir dans cette espèce de réceptacle, mais celui-là, il aura un peu de liquide au fond. Donc ces insectes, ils seront un petit peu embêtés pour ressortir de ce liquide, ils vont pas se noyer, mais ils vont se bagarrer, ils vont beaucoup bouger dans la fleur, ce qui fait que les pollens des fleurs mâles et femelles, qui sont toujours les deux présentes dans ce réceptacle, vont en fait se mélanger. Donc ça va fertiliser et féconder de nouveau cette plante, et puis ça va donc lui permettre de se reproduire chaque année. Et puis le lendemain matin, en général ça dure 6 heures, l'emprisonnement des insectes, et le lendemain matin, ben, la fleur va flétrir. Les poils de nouveau qu'il retenait vont flétrir et puis les insectes vont pouvoir s'en aller. Donc c'est pas du tout une plante carnivore. Elle les emprisonne juste pour se reproduire.
Les jardinières.
Jardinières vous accompagne tous les samedis matins. On partage conseils et astuces au jardin. Nous sommes en compagnie de Cathieu Racine, guide de randonnée nature à Mervelier. Pardon. On peut suivre vos activités sur les réseaux sociaux sous le nom de Rendez-vous avec soi-même. À l'honneur ce matin, ces fleurs qui ne nous enivrent pas d'un doux parfum mais qui donneraient plutôt l'envie de fuir. Et puis Cathieu, bien sûr, vous allez répondre aux questions jardinage de nos auditeurs.
Trois possibilités pour poser vos questions. Rendez-vous sur notre site. Vous remplissez le formulaire et vous pouvez joindre une photo à votre question. Vous pouvez aussi nous écrire un SMS. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom. Et puis vous nous l'envoyez au 939 ou alors par téléphone. Hein. C'est aussi possible de nous joindre et de nous appeler au 0901 70 20 20.
Alors Cathieu, en première partie d'émission, on a découvert des plantes exotiques qui sentent mauvais. Il y en a aussi dans nos contrées qui s'appellent, je vais retrouver le nom, l'arôme tacheté. La suivante porte le nom très évocateur de Orchis Book. Du coup, Cathieu, première question, est-ce qu'elle sent vraiment le book?
Alors, malheureusement, je n'ai jamais eu la chance de la croiser au moment où elle était en fleur avec cette odeur si délicate. Quelle odeur du bouquin, hein. Tout le monde a déjà senti. Enfin, même si parfois on s'en rend pas compte, parfois on passe à côté d'un troupeau de chèvres, puis on se dit, mais mon Dieu, mais quelle odeur il y a par ici. Puis on a un de ces fiers mâles qui se fait pipi dans la barbe, hein, les bouquins. Hein. Il faut quand même juste un petit peu expliquer le truc pour que les gens sachent comment ça sent. Donc le bouc, quand il veut séduire ses dames chèvres, il se fait pipi sur la barbe. Donc voilà, donc, cette orchidée aurait, semble-t-il, cette odeur-là quand elle est en floraison. Alors je n'ai jamais eu la chance de sentir ça, mais paraît-il qu'effectivement ça sent vraiment pas du tout bon. Mais malgré tout, c'est une orchidée. Donc c'est un petit peu particulier parce que quand on voit l'orchidée, on a toujours cette belle fleur. Et puis si on la voit dans la nature, ça donne quand même une jolie fleur. Bien sûr, ça ne ressemble pas tout à fait aux orchidées qu'on trouve dans nos commerces ou sur nos bords de fenêtres. Mais par contre, c'est toujours surprenant d'avoir une belle fleur comme ça puis qui sent finalement si mauvais.
Alors pour les curieux, hein, voire les téméraires, l'Orchis Book est une espèce qui pousse dans nos régions. Quand et où on peut l'observer?
Alors on pourra plutôt l'observer dans des... C'est une plante qui a besoin d'énormément de soleil. Donc on va plutôt la trouver dans des prairies qu'on a par chez nous, hein, d'ailleurs, et dans les Alpes, dans des prairies qui sont plutôt très sèches et puis qui sont un peu clairsemées, comme ça. Elles adorent les zones ouvertes, donc il n'y aura pas beaucoup d'arbres autour ou d'ombre, hein, et puis très sèches. Et puis elle aime beaucoup les sols calcaires, les friches, les lisières de forêt, le long des talus, pas plutôt dans ces terrains pauvre, hein, qu'on voit des fois quand on se promène, on se dit tout d'un coup ça devient un petit peu pauvre, donc on pourra les trouver là. Et puis c'est une fleur qui est très imposante parce qu'elle pourra avoir une inflorescence qui fait jusqu'à 1,20 m, donc c'est aussi assez marrant de voir que ces fleurs qui ont ces odeurs pas très glamour, ben sont souvent des très grandes fleurs. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Oui, donc ce sera une orchidée. Puis ce qui est rigolo, c'est que d'abord, elle aura une légère odeur vanillée. Donc, vraiment au début de la floraison. Et quand elle commence de se flétrir, eh ben là, elle aura vraiment cette odeur qui va passer à une odeur très désagréable. Donc, c'est assez marrant parce qu'en plus, elle arrive à faire une odeur qui est bonne et une odeur qui est mauvaise.
Elle a tout pour plaire. Katiou, nous les humains, ben, l'odeur ne nous attire pas. Par contre, elle attire mouches et insectes nécrophages. Mais est-ce que les animaux fuient aussi cette plante, ces plantes qui ne sentent pas bon ?
Alors, c'est assez marrant parce qu'on penserait que si on prend chien, chat, on a l'impression qu'ils mangent un peu tout ce qu'ils trouvent et tout. Puis pas du tout, en fait. Les animaux ne mangent quand même que ce qui est bon pour eux. Ils ne sont pas fous, hein. Ils ne vont pas aller manger. Si ça vous est arrivé de donner un truc qui est un peu limite à un chien, parfois, ils le boudent quand même. Donc, ils ne sont pas attirés parce que là, c'est au-delà. C'est déjà passé dans la chose qui a pourris, qui est en décomposition, donc ils ne seront pas attirés. Mais par contre, ce qui était marrant, quand la mienne a fleuri la semaine passée, j'ai vu que mon chien, qui est un golden retriever, tout le monde sait que les golden mangent absolument n'importe quoi, il est sorti de la maison et il a le nez qui s'est levé et il a senti cette odeur et il a été jusqu'à la fleur. Puis quand il est arrivé vers la fleur, à 1 mètre de la fleur, il a rebroussé chemin. Donc il a quand même senti qu'il y avait quelque chose, mais quand il est arrivé vers la plante, il est parti. Donc non, ça ne les attire pas du tout, ça aurait plutôt tendance à les repousser.
Katiou, vous nous l'avez dit, vous avez un Dracunculus vulgaris dans votre jardin. Alors on est entre nous, c'était pour éloigner vos voisins.
Non, franchement pas. En plus, j'ai déménagé. Entre-temps, j'avais acheté ce bulbe il y a plusieurs années. Je l'avais planté où j'habitais avant. Et puis, ben, quand j'ai déménagé à Mervelier, j'ai déterré ce bulbe en plein mois de février pour le replanter à Mervelier. Et puis, en fait, j'aime beaucoup trop mes voisins pour les éloigner avec ça. Donc, ouais. Non, c'est plutôt... déjà, c'est une plante qui est assez rare. Le bulbe est assez difficile à trouver. Et puis, moi, je trouve que c'est une fleur absolument fantastique. Elle se fait oublier l'hiver tout d'un coup. Au printemps, quand elle repousse, on voit cette pousse qui est très vigoureuse comme ça. Puis, chaque fois, je me dis, ah, ben tiens, elle est toujours là. Donc, c'est chouette. Et puis, elle a des grands avantages. C'est que c'est une plante qui est hyper rustique. Donc, pour vous dire, je l'avais déterrée au mois de février avec un seau d'eau chaude quand j'ai déménagé, parce qu'il fallait absolument que je la prenne avec. Et puis, je l'ai replantée dans un petit pot qui a été 6 mois au pied de la maison. Enfin, voilà, je l'ai vraiment maltraitée, ce pauvre bulbe. Puis, en fait, maintenant, ben, il repousse et puis il me fait honneur de sa floraison. Puis, c'est quelque chose de robuste, de rustique. Ça tient à moins 15 degrés, le bulbe, s'il est bien planté. Donc, c'est vraiment une fleur super. Et en plus, arriver à imiter tout ça simplement pour ne pas mourir, est-ce que l'humain en serait capable ? Moi, je ne crois pas, non ? Je ne crois pas.
Donc, du coup, c'est une plante qui est facile d'entretien, finalement.
Ah, très facile. Alors, si une fois vous en trouvez, n'achetez pas par Internet, parce que vous allez vous faire rouler. Mais si vous allez sur des marchés, je ne veux pas vanter la France, mais la France a quelques marchés en Alsace qui sont vraiment spécialisés dans des plantes un petit peu rares, des choses comme ça. Notamment le marché de Schoppenwier, qui est un super marché. Et puis là, vous pouvez trouver plein de gens qui sont passionnés. Donc, c'est des passionnés qui vont vendre 2-3 bulbes. Ce n'est pas du commerce, hein, c'est vraiment des passionnés. Et puis, si vous en trouvez un, ben, mettez-le dans votre jardin. Franchement, c'est une super plante.
Les jardinières.
7h46 chez Les Jardinières et notre dernière ligne droite place à vos questions jardinage. Si vous en avez, vous pouvez toujours nous appeler directement ici au 0 900 70 20 20, ou alors passer par les formulaires que vous trouvez sur notre site avec la possibilité de joindre une photo. Et puis enfin, la troisième manière de nous joindre, c'est par SMS au 939. Il faut taper le mot jardin, laisser un espace suivi de votre question et de votre nom. Et les questions jardinières, justement, place à la première de notre matinée.
Oui, et Paola nous a carrément envoyé une photo avec sa question. Elle vous demande, Katiou, comment traiter son érable qui est en pleine terre. Elle a envoyé une photo du feuillage. Il est très jaune avec les bouts, j'allais dire des plumes. Non, ce sont des feuilles. Le bout des feuilles un peu brun. Enfin, de couleur brune.
Oui.
Et il est en pleine terre. Que lui arrive-t-il à cet érable ?
Sur la photo, j'ai pu voir effectivement que c'était un petit érable et qui est très, 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 très dense. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de feuilles. Et on peut voir, juste pour expliquer un petit peu aux auditeurs, que ces feuilles, le bout de ces feuilles devient vraiment brun. Donc ça, c'est typique des quelques jours, j'irais même maintenant, ça fait bientôt une bonne semaine, quand on a eu du chaud. Donc les plantes ont vraiment pris leurs aises, elles ont poussé, en plus elles sont en pleine terre, donc voilà, c'est le printemps, l'été, elles se développent. Et puis, tout d'un coup, il vient comme ça du froid et humide. Donc la plante, elle a un choc en fait, et elle développe des maladies cryptogamiques, il peut y en avoir tout plein. Et elle fait justement ces petites feuilles un petit peu brunes, et puis il n'y a pas grand-chose à faire. Maintenant, il faut laisser ces temps froids et humides se terminer. Ce qu'elle peut déjà faire en attendant, c'est déjà enlever manuellement toutes ces petites feuilles qui sont brunes, parce qu'il y en a, mais pas tant que ça, donc c'est encore gérable. Les enlever, les mettre dans un sachet plastique et mettre ce sachet plastique à la poubelle. C'est un champignon, donc si on laisse ça au pied de l'arbre ou qu'on met ça sur le compost, en fait le champignon va continuer de se développer et puis les spores vont s'envoler, ils vont aller se reposer sur l'arbuste ou sur d'autres. Donc vraiment, mettre ça dans un sac plastique à la poubelle. Et en fait, cet arbuste, il est beaucoup trop dense. Ça veut dire qu'une fois qu'il y a de l'humidité qui est entrée à l'intérieur, il a beaucoup, beaucoup de peine de se sécher. Donc, le vent ne peut pas passer, le soleil ne pénètre pas à l'intérieur de cet arbuste. Et puis, c'est ce qui développe ces maladies. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est déjà un petit peu le tailler et l'éclaircir de manière à ce qu'il ait une structure un peu plus aérée. Et puis ensuite, on pourra, l'année prochaine, au printemps, faire ce qu'on appelle une bouillie bordelaise. Donc, c'est un mélange qu'on trouve dans les magasins de la place, qui est à base de cuivre, et puis c'est un traitement préventif. Et puis ce traitement-là, on peut le faire jusqu'à 3 fois pendant le printemps, et puis ça limitera vraiment le développement de ces maladies, et surtout pensez bien à lui mettre beaucoup d'engrais, parce que quand ils sont malades, ils ont besoin qu'on les fortifie. Donc mettez-lui de l'engrais naturel de préférence, et puis je pense que ça va bien se passer pour cet été.
7h, 8h, les jardinières.
L'heure. Je recommence. Noélie, vous faites le jingle. L'heure tourne et on arrive gentiment à la fin de notre émission. Ce matin, nous avons parlé de ces plantes qui ne sentent pas la rose. L'émission sera disponible en cours de matinée sur notre site. Cathy, avant de vous laisser filer, dites-nous, en ce premier week-end du mois de juin, oui, on fait quoi au jardin?
Mais faites un petit pique-nique là, vous avez bien travaillé, enfin aujourd'hui vous serez allé dans votre... J'ai du mal, hein, ce matin c'est compliqué, hein. Vous serez allé gratter votre jardin et tout, et puis après mais allumez le barbecue, faites-vous un petit pique-nique et puis prenez du temps avec les gens que vous aimez, ça c'est aussi très important.
Je crois que c'est le meilleur conseil que vous pouvez nous donner. Merci Cathy pour votre visite matinale chez les jardinières. On rappelle que vous êtes guide de randonnée nature à Mervelier et pour suivre vos activités, direction les réseaux sociaux sous le nom de Rendez-vous avec soi-même. Très bon week-end et à bientôt.
Merci, bon week-end à vous.
Merci beaucoup, Cathy. Les jardinières seront de retour samedi prochain pour de nouvelles aventures au vert. Et nous serons en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve. D'ici là, passez un très bon week-end. Bon week-end, Noélie.
Bon week-end, Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous. Merci pour votre écoute.
7h, 8h, les jardinières.